France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marion Grébert, j'ai lu votre livre « Pourquoi les fleurs, un autre voyage en Italie » qui m'a beaucoup touchée. Moi j'ai tout de suite été happée par une phrase qu'on trouve au début. En Italie, on est toujours en train de poursuivre un passé, le sien et celui d'un autre. Ce passé est intime comme un souvenir d'enfance, mais d'une enfance qui serait celle de tous. Et c'est exactement ce qu'on ressent en lisant votre livre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On ouvre le dossier des fleurs aujourd'hui dans votre book club. La formule superbe et pleine d'intuition est empruntée par Marion Grébert à Roland Barthes. Pendant son séjour de travail à la Villa Medici de Rome, la chercheuse et historienne de l'art s'est demandé pourquoi les fleurs? Comment expliquer que nous leur avons tant confié à travers le temps et les images et que nous continuons de le faire? Dans un livre qui ressemble à une promenade, elle cherche les fleurs, les remarque ici dans un poème, ici dans un tableau, ici dans un jardin ouvrier, ici dans un film de Pasolini ou un poème de Paul Celan. Quel type de savoir peut-on prêter à une fleur et que faire d'une tulipe remarquée dans un jardin de SS? C'est aussi une manière de penser qu'elle met à l'œuvre dans un ouvrage où l'iconographie et les textes rivalisent de beauté. Elle est notre invitée. Ensuite, direction l'île de Madagascar, grâce à notre correspondant de la rédac internationale dans la capitale, une bibliothèque de rue permet aux enfants d'avoir accès aux livres. Et en fin d'émission, ce sera Bread and Roses. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Marion Grébert.
Bonjour Marie Richeux.
Votre livre « Pourquoi les fleurs » a paru aux éditions de l'Atelier Contemporain dans la collection « Essais sur l'art ». Bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir, on le guettait ce livre. Je le disais dans l'introduction, entre toutes les choses qu'il brasse, il permet aussi d'avoir accès, ce livre, à une forme de pensée, à une forme d'organisation du savoir. Je le disais, c'est comme une forme de promenade. On peut dire aussi, on peut filer la métaphore et dire que c'est un jardin. C'est une façon de tisser les savoirs aussi en guise de questionnaire lecture, qui est toujours le début de notre émission. J'aimerais vous demander comment vous avez lu pour ce livre-là, à quoi ressemblait votre bibliothèque ou votre atelier ou votre bureau de travail à la Villa Medici à Rome, et qu'est-ce que ça raconte de la manière dont vous avez écrit et pensé.
On peut lire ce livre, je crois, comme un carnet de voyage, mais aussi comme un journal de lecture, en fait. Je suis partie à Rome pour un an en septembre 2022, comme pensionnaire à la Villa Médicis. Je suis partie avec très peu de livres. Dans ceux qui ont directement intéressé l'écriture de ce livre, il y avait des poèmes et des romans de Pasolini, il y avait la Divine Comédie de Dante, il y avait les poésies complètes d'Emily Dickinson. Je suis partie avec peu parce qu'il y avait autant un enjeu de renouvellement de l'écriture que de renouvellement de la lecture en allant là-bas. Et il y a eu une coïncidence extraordinaire dont le livre conserve la mémoire maintenant, c'est que je suis arrivée à la villa quand mon premier livre sortait, Traversée invisible, pour lequel vous m'aviez reçue. Et la sortie de ce livre m'a valu une invitation dans une librairie à Tours, la librairie Le Livre, tenue par Laurent Évrard, à qui le livre est dédié. Et un dialogue littéraire s'est noué avec lui tout au long de l'écriture de ce livre. Et Laurent Évrard m'a donné à lire beaucoup pendant cette période. Et autant je n'ai
tandis
pas...
Tandis que vous étiez pensionnaire.
Tandis que j'étais pensionnaire.
Et alors, vous les envoyez ou vous vous débrouillez pour les trouver sur place, les
livres
que vous n'aviez pas emmenés avec vous ?
J'ai pu me débrouiller pour les trouver sur place. Je les ai parfois commandés. Et ça, en fait, aussi, ça m'a permis de créer une constellation d'autres lectures, puisque à la Villa Médicis, il y a ce qu'on appelle l'annexe de la bibliothèque, qui est un petit bâtiment à part avec tous les ouvrages littéraires dans lequel on se retrouve souvent seul et dans lequel j'ai pioché beaucoup de livres.
Quelle merveille!
Ça, c'était merveilleux. Et la table de travail, qui était en fait la table de la salle à manger que j'ai transformée en très grand bureau, a été couverte de livres toute l'année. Je dirais beaucoup moins des livres ou des écrits directement sur les fleurs que des écrits personnels qui trouvent des positions d'écriture devant le détail des choses. Alors il y a eu beaucoup de journaux, les journaux de Kafka, les journaux de Virginia Woolf. Il y a eu des auteurs à l'écriture très intimiste que j'ai découvert pendant l'année, comme Gustave Roux, un écrivain suisse qui écrit sur la campagne suisse, qui est lui aussi présent dans le livre. Des essais, Walter Benjamin aussi, beaucoup lu et relu pendant cette période.
Avec quelle intuition Laurent Évrard, ce libraire de Tours, vous envoyait ou vous conseillait-il des livres? Est-ce qu'il y avait un chemin? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aviez bordé l'un et l'autre pour vous deux?
Je crois qu'il y a eu un démarrage qui a marqué pour moi de toute façon vraiment un tournant dans l'écriture et les recherches de ce livre et qui a marqué aussi un vrai point de départ dans cette correspondance et ce dialogue avec Laurent Évrard, qui est la lecture de la correspondance entre Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Ce qui me permet d'ailleurs de dire que l'écoute a eu aussi a joué un rôle très très important dans cette écriture, parce que en même temps que je commençais à lire cette correspondance, je l'ai écoutée en partie sur France Culture. Il y a un enregistrement de 10 heures de cette correspondance qui s'appelle Le temps du cœur, et tout en écoutant, j'ai commencé à trouver des positions d'écriture qui, là aussi, ont ouvert le dialogue avec Laurent Évrard et qui, je crois, arrive à lire de tellement près les écrivains qu'il invite dans sa librairie, qu'il arrive à entrer dans leur logique d'écriture et dans leur monde sensible. Et oui, quelque chose s'est noué petit à petit avec les lectures que je faisais aussi moi-même de façon indépendante.
Et alors concrètement, parce que vous êtes une chercheuse et vous dites avoir trouvé pendant ce temps de travail à la Villa Médicis à Rome un nouveau positionnement pour votre écriture. Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que méthodologiquement vous avez travaillé différemment? Est-ce que vous avez lu différemment?
J'ai lu très différemment parce que j'ai lu des choses très différentes. Je suis arrivée en fait. Je me disais, finalement, je n'ai pas encore vécu de moment où j'ai peur de ne pas savoir sur quoi écrire. En revanche, je suis arrivée dans ce livre en ayant peur de ne plus jamais savoir quoi lire. J'étais un moment dans une espèce d'impasse quant à mes lectures.
Mais parce que trop de lectures, une forme de dégoût?
Trop peu de lectures.
Trop peu?
Oui, ça faisait plusieurs mois qu'il y avait peu de lectures. Je ne savais plus exactement quoi lire. Mmh. Et là, il y a quelque chose que j'ai dépassé, je pense, aussi pendant cette année. C'était peut-être une sorte de complexe vis-à-vis de la philosophie que j'ai aimée très tôt et face à laquelle, oui, je me sentais insuffisante. Et en fait, j'ai lu beaucoup de philosophie et beaucoup d'essais pendant cette période. Je crois que ça a renouvelé ma position d'écriture. Et
vous sauriez dire en quoi?
Je crois que c'est dans la manière de réussir à la fois à tenir un propos relatif à une pensée théorique, tout en cherchant à penser dans la phrase. Et notamment, lire Walter Benjamin m'a beaucoup aidée en cela. Alors, ce n'était pas la première fois que je lisais, mais il y a des textes que j'ai lus pour la première fois. Et la façon dont la pensée est nouée avec l'expérience intense de la vie, se nouait en même temps avec l'aventure quotidienne que je vivais en Italie, à Rome et dans d'autres villes italiennes. Quelque chose s'est passé là. Je pourrais aussi parler de, comment le qualifier, de Jean-Christophe Bailly, qui se situe quand même aussi un peu dans le champ de la philosophie, essayiste, poète, qui a été très important sur ce plan, notamment parce que il écrit beaucoup sur le paysage, les métamorphoses de la ville, mais en se tenant toujours à une position de présence au présent. C'est-à-dire qu'il constate bien que le Paris des années 50 dans lequel il marchait avec son père n'existe plus. Il constate que quand il retourne récemment à Venise après presque 40 ans sans avoir vu Venise, il lui faut attendre minuit pour trouver un moment d'enchantement solitaire à cause du tourisme de masse. Et j'ai été confrontée dans l'écriture du livre à cette question du tourisme et de la métamorphose des villes notamment. Et quoi en faire dans la phrase? Quoi en faire dans l'écriture? Et Bailly refuse toute position de nostalgie ou de passéisme. Et ça a été très important aussi dans l'écriture de s'en tenir à cette position presque éthique vis-à-vis de la littérature.
Très présente.
Très présente. Ouais. De ne jamais rien faire avec la déploration du présent, mais avec faire avec l'enthousiasme devant le présent.
Ça, c'est certain, et c'est présent tout au long de votre livre, et peut-être que c'est une éthique de fleur que d'avoir affaire au présent et d'être tant concerné par le présent, tellement leur vie, pour la plupart d'entre elles, est courte. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, Marion Grébert. Quand on vous imagine donc dans cet atelier, salle à manger transformée en bureau, avec une constellation de livres qui s'agrandit au fur et à mesure que votre correspondance avec Laurent Évrard s'enrichit, ou dans l'annexe de la bibliothèque. Est-ce que dans tout ce moment-là, vous saviez déjà que c'était la question des fleurs qui se posait à vous ?
Oui, 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 je suis arrivée.
Vous partez avec ça.
Je suis arrivée avec ce projet. Il était très nettement défini dans ses enjeux théoriques. Là où il y a eu vraiment une découverte, c'était sur le plan formel, et évidemment, mille découvertes de lecture et de peinture tout au long de l'année, et de fleurs dans la vie de tous les jours. Mais le projet théorique était assez clairement défini, oui.
On va y venir, à ce projet théorique dans un instant. Mais avant de refermer ce moment de questionnaire lecture, il y a une iconographie, je le disais, qui est superbe et qui participe au plaisir qu'on a à lire votre livre. Est-ce que vous avez consulté des livres d'images, est-ce que vous avez vraiment été uniquement dans les musées, voir les fresques et les peintures en vrai, Marion Grébert ?
Ça a été principalement un contact avec les œuvres face à elles. Ce qui a été la grande particularité et de ce voyage en Italie et de l'écriture de ce livre, c'est d'être en compagnie des œuvres en permanence. C'était quelque chose à quoi je tenais beaucoup, d'écrire en marchant devant les œuvres, d'aller vers elles, puisqu'en Italie, ça c'est une chose merveilleuse, c'est que on ne voit pas les œuvres seulement dans les musées, on les voit dans toutes sortes de villes, de villages, dans des églises, de campagnes.
Et ça aussi, c'est du présent.
C'est du présent, parce qu'on est au présent de la marche, on est au présent du voyage, on est au présent de la possibilité de l'accueil de ces œuvres ou non, selon les conditions dans lesquelles on les voit. Est-ce que je suis seule ? Est-ce que je suis entourée de beaucoup trop de monde ? Ça, c'est un questionnement et un motif dans le livre, puisque j'ai la chance de découvrir des fresques très importantes dans l'histoire de l'art, de manière solitaire, en novembre à Assise, par exemple, devant les fresques de Giotto. Et puis, à d'autres moments, des fresques ou des mosaïques très importantes pour l'histoire de l'art. J'ai été face à elles, mais je ne les ai pas vues, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde autour de moi.
On va parler de votre livre, Marion Grébert, juste après cette chanson qui est entonnée par trois personnages, au début du film Mamma Roma de Pierre Paolo Pasolini, pardon, qui a une place très importante dans votre livre. Ce film est réalisé en 1962. C'est une scène de mariage. Il y a la mère et il y a les deux mariés qui entament une véritable joute chantée avec cette chanson-là. Dans cette chanson, chaque fleur qui est chantée et énoncée se transforme ou abrite une forme de pique. C'est une bagarre, fieur de gadja, fieur de sable, fieur de menthe, fieur de cocuzza, et ça termine par une fleur de merde.
La messa l'ha detta cantata!
A mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori.
Via, canto!
Malla, malla, mamma Roma!
Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
A Carmine, battete a te che sta forte ancora.
Fatto nero, Carmine.
Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta. Fior de cucuzza, na donna per sti baffi andava pazza. E adesso che l'ha persi ce va in puzza.
io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa la serva.
Culture, le book club, Marie Richeux.
Des fleurs partout, aujourd'hui dans votre book club. Dans le recoin d'un tableau, glissé dans le pli de la robe d'une Vierge Marie peinte il y a plusieurs siècles, sur une fresque d'avant notre ère, dans une lettre rédigée par Rosa Luxembourg, au coin des murets, les lauriers roses fanés, partout, dans Rome, Venise, Bologne ou Arezzo, mais aussi à Fresnes, dans le ghetto de Varsovie ou dans le Gand de Breslau. Les fleurs sont l'accès à la conscience élevée du poème, écrivez-vous Marion Gréber, vous qui êtes revenue de votre séjour de travail à la Villa Medici avec la proposition d'un autre voyage en Italie, c'est le sous-titre de votre livre, car c'est aussi ce que propose cet ouvrage, un voyage, une pérégrination, l'organisation singulière, comme on le fait presque avec un bouquet, mais cette fois d'un savoir et d'une pensée qu'on pourrait arpenter comme un jardin quasi sauvage. Pourquoi les fleurs ? Un autre voyage en Italie, c'est le titre de votre livre paru aux éditions de l'Atelier Contemporain. Je le citais en introduction de cette émission, c'est Roland Barthes. On va écouter un extrait de son cours au Collège de France, c'est en 1977. Quelques chanceuses et chanceux l'écoutent ouvrir le dossier des fleurs.
Je veux simplement poser, disons, un dossier des fleurs qui, à ma connaissance, n'a pas été ouvert, car les fleurs, dans les jardins ou sur les tables, les fleurs, pour nous, cela va de soi. Ça fait partie de l'insignifiant. Or, quand cela va de soi, c'est alors qu'il faut aller voir et qu'on s'aperçoit que le « cela va de soi » est fait de beaucoup de questions qui sont sans réponse. Alors la question qui serait posée ici, ce serait « pourquoi des fleurs ?» Alors il y aurait bien d'autres développements à ce dossier. Il y a un livre encyclopédique à écrire sur les fleurs, mais qui n'aurait d'intérêt que s'il était véritablement encyclopédique, justement, s'il n'était pas spécialisé. Bon, il y aurait une esthétique des fleurs, toutes les peintures de fleurs. Il y aurait une métonymique des fleurs, la mise en rapport des fleurs avec les saisons, ce à quoi elles touchent. Il y a, bien entendu, ou il y a eu une herméneutique des fleurs, puisqu'il y avait un langage codé des fleurs. Il y a probablement une sociologie des fleurs, mais quel sociologue intéresse-t-elle ? Par exemple, qu'en est-il aujourd'hui dans notre société de l'usage des fleurs ? C'est pourtant tout un commerce. Pourquoi achète-t-on des fleurs ? Mais probablement tout ceci, le sens de la fleur, c'est le sens d'être la chose inutile, par opposition aux fruits, la chose rare, selon les données climatiques, et la chose colorée, c'est-à-dire la chose pulsionnelle. La fleur, c'est l'être même du luxe. C'est la dépense absolue, c'est le supplément absolu, c'est ce qui est en deçà du fruit utile, c'est ce qui ne vient pas au bon moment de l'utilité et par conséquent qui ne peut être pris que dans une économie du luxe, même modeste. C'est, si vous voulez, la fleur, c'est le symbole actif du pour rien, de la dépense inutile.
Avec Louise Hutt, avec qui on avait préparé l'émission, on se disait quand même, il y a des gens qui ont juste eu Roland Barthes comme ça, qui leur faisait cours. C'était en 1977, normal, et ils écoutaient ça. Et ça fait partie des personnes que vous citez très rapidement, Marion Gréber, dans votre livre « Pourquoi les fleurs ?» sans point d'interrogation, vous. Qu'est-ce qui, dans l'ouverture proposée par Roland Barthes de ce dossier des fleurs, vous met en route, si c'est le cas, pour écrire votre propre dossier des fleurs ?
Ça m'a mise en route parce que ça a confirmé qu'il y avait un dossier des fleurs. En fait, j'ai moi-même commencé à avoir l'intuition qu'il existait quelque chose de cet ordre. Et je me suis dit, est-ce que Barthes en a parlé ? Et j'ai cherché.
Parce qu'il a lui-même cette fameuse position d'écriture et de pensée que vous décriviez tout à l'heure dans une formule qui m'a échappé, que j'essayais de... mais qui était d'être attentif aux détails, d'écrire près des détails.
Oui, exactement. D'écrire proche des détails, proche de la vie quotidienne aussi. Et alors ce séminaire s'appelle « Comment vivre ensemble ?» et qui choisit un certain nombre de dossiers à ouvrir dont les fleurs font partie pour savoir, pour interroger la manière dont on vit ensemble collectivement et dans sa solitude. Et ça m'a permis de me lancer de manière tranquille dans ce projet, puisque si Barthes avait décidé qu'il y avait vraiment un dossier à ouvrir, alors
c'était possible
alors
de le faire un peu plus tard.
Ouais. Oui, oui. Ce que ça a posé très vite comme question, et que ça a posé jusqu'au bout de l'écriture, et que ça continue de poser, cette ouverture du dossier des fleurs, je crois qu'on l'entend bien dans la manière dont Barthes en parle ici, c'est qu'à travers cet objet qui semble à la fois insignifiant et évident dans notre rapport à lui, on se confronte à l'exhaustivité du savoir et des savoirs. Et il évoque toutes sortes de disciplines, dans le reste du cours sur ce sujet, toutes sortes d'aires géographiques, toutes sortes de moments de l'histoire culturelle humaine. Et finalement, ce qui a fini par se poser...
Mais ça, c'est pas le cas avec tout. C'est-à-dire qu'en fait, non, les fleurs, ça ouvrirait ce savoir encyclopédique dont il parle. Il n'y aurait de livre intéressant à faire que s'il était... non pas spécialiste, mais encyclopédique.
Oui, d'ailleurs, il y a eu une tentative de cette sorte faite par Jack Goody, qui s'appelle « La culture des fleurs », qui est un livre relativement encyclopédique sur les fleurs, mais qui m'a assez peu fait penser, alors qu'il est beaucoup plus volumineux que les quelques pages que l'on a maintenant relatifs au cours de Barthes, qui m'a assez peu fait penser parce que l'encyclopédie, fait que il manque la phrase et ce qui se pense dans la phrase, et puis surtout en fait on n'arrive jamais au bout de la recension des occurrences de fleurs, et donc ce qui est intéressant à interroger, c'est cette question de l'impossible exhaustivité du savoir qu'on peut regrouper quand on s'intéresse aux fleurs, plutôt que d'essayer de tendre vers cette exhaustivité impossible.
Et alors, qu'est-ce que ça raconte, le fait que, de toute façon, on n'ira pas trouver toutes les fleurs de tous les tableaux, de tous les poèmes, de tous les textes théoriques? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, Marion Graeber? Parce qu'en fait, à chaque fois, et c'est vraiment la forme, et j'aimerais que nos auditeurs comprennent, c'est qu'à chaque fois, bien sûr, il y a le motif et il y aurait le sujet fleur, mais en fait, à chaque fois, c'est comme si ce sujet-là ou cette matière vivante des fleurs donnait une forme à votre pensée, ou nourrissait votre chemin théorique. Il y a quelque chose qui est circulaire là-dedans.
Oui, exactement. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a une pensée sur les fleurs dans le livre, il y a une pensée sur la pensée.
Ouais.
Il y a une pensée
qui est
sur...
C'est un mot fleur au passage.
Exactement. Il y a une pensée sur ce que peut être la connaissance. Et là où j'ai touché à quelque chose de cet ordre, c'est en lisant aussi des études scientifiques pendant l'écriture du livre, notamment des textes de physique et de mathématiques qui m'ont fait découvrir que... il existe tout un pan des sciences sur qui étudie la morphogénèse florale, c'est-à-dire le développement et la croissance des fleurs, et quels sont les modèles mathématiques qui président à leur développement. Et c'est seulement vraiment depuis une dizaine d'années qu'on commence à pouvoir formuler mathématiquement la croissance de certaines fleurs. Mmh. Et je termine... par un chapitre qui commence par cette phrase « à un pourquoi ne répondent jamais en écho que d'autres pourquoi ». Et il y a cette idée, en fait, que l'écho commence par la plus petite fleur terrestre et se continue jusque dans le silence des espaces infinis, mais que ça part d'elle, qu'il y a un mystère sur le savoir, et en quelque sorte, dans leur langue muette à elles, elles savent des choses que nous ne savons pas encore formuler.
Et qui, nous, en tout cas, viennent ricocher dans les pourquoi, qui, en effet, s'amoncellent pas toujours avec des points d'interrogation dans votre livre, Marion Graeber. Alors, pour autant, vous n'abandonnez pas l'idée d'aller y voir un peu partout. Barthes dit, c'est quand ça va de soi qu'il faut aller y voir. Vous allez y voir, très concrètement. C'est-à-dire que vous ouvrez pas un seul dossier des fleurs, mais plein de dossiers des fleurs. Vous les cherchez dans les tableaux, vous les cherchez sur les rebords de chemin quand vous prenez un train, vous les cherchez dans vos souvenirs, vous les cherchez dans les poèmes. Il y a comme si votre attention, elle devenait vibrionnante. Enfin, vous êtes un radar à fleurs dans ce livre-là.
Oui, c'est une très bonne expression. Et ce radar continue d'être en activité aujourd'hui, puisque je continue de voir les fleurs partout. Il y a eu un entremêlement de toutes sortes de champs d'expérience, des expériences de lecture, La littérature, la poésie sont présentes, des expériences quotidiennes et vernaculaires, que sont les fleurs sauvages qui se trouvent tout autour de nous, que sont les fleurs que l'on va acheter au marché, d'où viennent-elles, que nous disent-elles sur l'économie dans laquelle on se trouve, et puis toutes les fleurs de la peinture aussi, que peuvent-elles nous apprendre sur leur contexte d'élaboration. Il y a aussi une histoire des religions dans le livre, par exemple. Regarder les fleurs dans la peinture de l'Antiquité, dans la peinture du Trecento et du Quattrocento, un peu plus tard encore, dans la peinture du XXe siècle, on peut réussir à reconstituer une histoire, l'histoire chaotique des croyances, des religions, comment elles s'inventent contre et avec les religions qui ont précédé.
Et ça, on le lit par les fleurs, la présence des fleurs, là où sont placées les fleurs dans les tableaux, par exemple.
Oui.
C'est possible.
C'est possible, et j'en ai fait l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie à ce sujet. C'est-à-dire que je suis vraiment partie des fleurs. Et ensuite, je suis allée vérifier si l'intuition que ça me donnait sur le rapport du peintre et de ses commanditaires à la croyance, au pouvoir, à ce moment-là, ce que je pouvais en reconstituer, est-ce que c'était réel? Et ensuite, en allant lire des livres d'histoire, je constatais que ça fonctionnait, qu'elles peuvent nous donner une intuition des événements historiques, et que ça, c'est une position là derrière qui me semble très importante. C'est, il n'est pas nécessaire d'être savant pour savoir quelque chose, il faut être sensible à ce que l'on voit et aux intuitions que nous donnent les plus petites choses que l'on a l'occasion d'observer.
Oui, et d'ailleurs vous le formulez en posant la question, quel savoir on peut prêter à cette fleur, comment est-ce qu'une fleur peut nous enseigner, et c'est pas du tout une formule dans le livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous faites la démonstration que pour de vrai, en écoutant cette fleur, en regardant cette fleur, en lisant cette fleur, mais à chaque fois vous le faites en scientifique, c'est-à-dire que c'est situé, vous regardez avec tout le savoir que par ailleurs vous avez quand même accumulé, Marion Gréber, elles vous disent des choses, et ce sont des choses qui sont tangibles, qui ont du poids et qui sont des connaissances valables. C'est vraiment une des choses dont on peut faire l'expérience. Vous avez parlé de Pierre Paolo. Ah, oh, mais le pauvre, il est tellement important, ça fait trois fois que j'écorche son nom. Pierre Paolo Pasolini, il est dans vos bagages quand vous arrivez à la Villa Medici. Vous avez peu de livres, mais vous avez lui. Ici, c'est une archive de 1966 dans une émission cinéaste de notre temps. Et juste après, un extrait de son texte posthume, Pétrole.
Alors, c'est la maison où j'habitais pour 3 ans.
Celle-là?
De 51 à 54. Et j'écris là mon premier roman, Ragazzi di Vita. Ça, c'est une réponse, je crois, à les idiots qui disent que j'ai venu dans les faubourgs de Rome en touriste. Non, j'habitais ici. Et ici, j'ai eu l'expérience de la vie d'un faubourg romain. Io scrivo il mio primo roman, Ragazzi di Vita, scrivo dei poemi, Le Cenere di Gramsci, faccio dell'antologia della poesia dialettale italiana, un'antologia della poesia popolare italiana. Ho lavorato molto in questa année-là. Vous voyez, la realtà vous parle. Vous voyez ces murs-là? Ils sont des maisons construites des ouvriers par leurs propres mains. C'est un type spécial de faubourg romain. Vous voyez, c'est un endroit du tiers-monde. Rome, c'est une ville pré-industrielle. Il n'y a pas d'industrialisation. Les gens vivent comme dans le monde pré-industriel, comme en Afrique, comme à Le Caire, ou à Alger, ou à Bombay.
J'ai envie d'en venir aux fleurs. C'était précisément la saison où, dans l'espace d'une nuit, les fleurs ont fait en masse leur apparition. Et ce sont les premières fleurs de l'année, certaines grosses marguerites, d'un blanc presque grisâtre, privées, à juste titre, de toute valeur commerciale. Et privées aussi de cette valeur poétique qu'ont les choses négligées, non commerciales. Et ces fleurs jaunes, encore plus privées de valeur, au point que personne n'en sait même le nom. Quoique, ponctuellement, chaque année, elles apparaissent, en groupes serrés et sains, pour colorer de jaune les champs d'Italie, à leur tour d'un vert excessif et laid, sur lequel le soleil jette une lumière impitoyable, aveuglante et sans poésie, où tout est éclairé de la même manière. Qu'on ajoute le lilas, presque violet, de certains arbustes fruitiers, des amandiers, je crois, plantés en rangée dans ces champs si désagréablement verts, avec les groupes des autres arbres encore dépouillés, et les piquets, les clôtures, qui témoignent d'un travail sans espoir désormais, accompli, du reste, seulement par des vieux. Bien que tout fût aussi égal, tout était différent. Il y avait alentour un air de fin du monde, du moins du monde de l'agriculture. Et chaque vieux village avait à l'entrée une rangée de maisons neuves horribles, avec leurs fausses briques rouges et leurs murs jaunes nus qui les rendaient tous pareils. Les anciens, tout autour des jeunes, comme des fantômes, mis à l'écart, silencieux, enfermés dans la douleur de leur exclusion.
Cet extrait du texte « Pétrole » de Pier Paolo Pasolini que vous citez, Marion Grébert, est juste avant sa voix dans une archive de 1966 où il dit plein de choses sur Rome. Il parle de la maison où il a vécu, il parle de la réalité qui nous parle en désignant un mur. Il dit aussi « en venir aux fleurs » comme on pourrait dire « en venir aux mains » quand on va à la bagarre. Il parle de ces murs construits par les ouvriers qui habitent les maisons construites de leurs propres mains. Pier Paolo Pasolini, c'est une présence qui est là du début jusqu'à la fin de Pourquoi les fleurs. C'est vraiment une présence fondamentale dans votre livre. Vous dites « Le combat de Pasolini mené pour le poème est inséparable d'une pensée des fleurs ». Est-ce que vous pouvez déplier pour nous ce que vous entendez par là?
Oui. D'abord, cette archive est très belle et je voudrais simplement dire que j'ai lu d'autres choses qu'il a écrites sur cette maison romaine dans laquelle il a vécu et dont il dit que depuis là, il sentait à la fois les odeurs de jasmin et les tas de déchets. Et qu'il y a ce mélange dans son expérience romaine qui est là en permanence et il parle de ce moment d'une Rome encore pré-industrielle, c'est-à-dire une Rome qui connaît encore les gestes de travail et de labeur de la campagne.
Qui est un motif très important dans le début de votre livre, où vous essayez de guetter, notamment grâce à Pasolini, ce qui demeure dans la Rome là très contemporaine. Donc on retrouve votre souci du présent, notamment à travers les fleurs et la végétation, d'où qu'elles partent, ce qu'il reste de rural dans Rome.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est une quête qui a été pour lui permanente. Et tout commence par la poésie. La poésie à Casarsa, dans le Frioul, au nord de l'Italie, qui est la région natale de sa mère, où il devient poète à l'adolescence, parmi les chants de Violette de la campagne de Casarsa. C'est un motif qui revient beaucoup dans la meilleure jeunesse, qui est son premier recueil de poèmes en dialecte frioulan. Et il choisit le dialecte frioulan contre la langue du père, en quelque sorte. Il choisit les origines modestes de sa mère contre un certain mépris bourgeois de son père, qui, certes, a épousé Susanna Colussi, la mère de Pasolini, mais qui a toujours conservé en lui un certain mépris pour les origines rurales de son épouse. Et Pasolini a toujours voulu s'en tenir à ce qu'il appelle ce petit monde de Casarsa, qui est aussi le monde des fleurs de la campagne, des fleurs des prés.
Oui, vous dites même que selon lui, la fleur veille sur la modestie du poème, qu'il y a un lien très fort entre la fleur et une sorte de politique du poème selon Pasolini.
Oui, exactement. Et il écrit lui-même dans un très beau texte de 66 qui s'appelle « Qui je suis » qu'il est devenu marxiste parmi les petites fleurs azurées du printemps avant la floraison des fleurs d'acacia. Et c'est devenu, une fois qu'il a été contraint de déménager à Rome en 1950 avec sa mère pour des raisons politiques, parce que il était en conflit avec les communistes de la région du Frioul, et notamment à cause de son homosexualité. Cet attachement aux plus petites choses, aux choses les plus modestes, est devenu une position politique, mais au départ, c'est une position d'enfant. Et une position d'enfance dont il a fait ensuite une position face notamment au capitalisme qui pour lui était l'opposé de la gratuité, du désintéressement, de la plus petite beauté florale.
D'ailleurs, quand il parle de certaines fleurs dans ce texte Pétrole, il parle de leur valeur poétique qui va à l'encontre de la valeur commerciale. Il y a d'emblée des questions économiques et politiques très profondes dans ce qui pourrait nous apparaître comme juste une petite vision champêtre. Et c'est ça aussi que défait tout le temps votre texte, Marion Gréber, c'est-à-dire que c'est vous êtes capable, avec ces autrices et ces auteurs, ces cinéastes, ces peintres, quelques siècles auxquels ils appartiennent, vous êtes capable de regarder le caractère champêtre, sensible, fragile, beau, tout simplement, esthétique des fleurs. Et à chaque fois, ce n'est jamais que cela. À chaque fois, il y a quelque chose qui nous dit que ce n'est jamais que cela. Et vous le faites avec Pasolini, j'ai l'impression comme un bon partenaire, quoi. Pasolini, ce serait un bon partenaire pour faire ça.
Oui. Oui, exactement, parce que dans cette manière de considérer les fleurs comme ce qui s'oppose à la seule valeur mercantile des choses, il dit en permanence, il ne s'agit pas seulement de penser les changements politiques au futur, il faut les penser au présent, à savoir comment est-ce que nous nous tenons dans le présent, comment nous tenons à ce présent dans lequel nous sommes, et cela en passe par savoir ce que nous décidons de regarder, ce à quoi nous décidons de prêter attention, et de porter une réelle valeur, et qui en effet n'est pas seulement une valeur champêtre. C'est tout ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est de montrer que cet objet qui peut être méprisé, qui peut être de la fleur, qui peut être féminisé dans le mauvais sens du terme, et je pense que c'était aussi important en tant que femme d'écrire un livre sur les fleurs, de pouvoir dire oui mais on peut écrire un livre de philosophie politique de manière sous-jacente en écrivant sur les fleurs, que c'est important de savoir tenir à elles et de savoir les regarder et les remarquer, parce que déjà on change quelque chose de sa position au monde en le faisant.
C'est ça que vous entendez quand je reprends cette phrase, le combat de Pasolini, et on sait que ce combat il est à la fois artistique, littéraire, économique, vous avez aussi parlé d'un combat intérieur, de la possibilité ou pas de vivre son homosexualité et qu'on fasse sa mort, dont vous parlez aussi Marion Gréber. Le combat de Pasolini mené pour le poème est inséparable d'une pensée des fleurs. Encore une fois, continuons à déplier ce que vous appelez la pensée des fleurs de Pasolini. On a entendu l'occurrence de ce chant joute dans la scène de mariage dans Mamma Roma. Il y a aussi l'évocation, lui aussi dit « je veux en venir aux fleurs » dans Pétrole, ce texte qui paraît de manière posthume. Où est-ce qu'on trouve cette pensée des fleurs dans l'œuvre de Pasolini? Et peut-être allons jusqu'à sa mort, puisque vous allez jusque-là.
Alors, allons jusqu'à sa mort et faisons un petit détour d'ailleurs par la chanson qu'on a entendue au début de Mamma Roma de 1962. Cette joute de chant qui se termine par Anna Magnani qui joue le rôle de Mamma Roma, qui commence sa strophe par la fleur de merde. Et je parlais tout à l'heure du mélange entre les odeurs de jasmin et l'état de déchets par Pasolini. Et ça, c'est un motif dans toute la poésie italienne, et par exemple chez Dante, qui était très important pour lui, au 8e cercle de l'enfer, dans le chant 18, le narrateur se trouve à Malbolge et se trouve devant un fossé rempli de merde, c'est un fleuve de merde, dans lequel se trouve pour l'éternité ce que Dante appelle les adulateurs. Et pourtant, dans cette trajectoire, le narrateur va passer de ce fleuve de merde en enfer jusqu'au paradis où il suit son aimée Béatrice qui le conduit jusque dans la rose céleste qui est une rose immense et brillante et dans laquelle il plonge et il disparaît. Et ce tiraillement entre la merde et la fleur, là il y a une position politique qui se définit. Et vous parliez de sa mort, Pasolini a été assassiné à Ostie dans la nuit entre le 1er et le 2 novembre 1975 sur un terrain vague dans la boue en bord de mer, et dans ses premiers poèmes qu'il considère comme étant les poèmes les plus beaux qu'il ait pu écrire en dialecte frioulant, il s'imagine mourir dans l'herbe verte et sous les tilleuls. Et en quelque sorte, il a fait hélas la trajectoire inverse du narrateur de la Divine Comédie. Mais s'il a fait cette trajectoire inverse, c'est parce qu'il n'a pas renoncé à tenir cette position de continuer à dire il y a une pensée politique dans cette toute petite chose qu'est la fleur, parce qu'il y a une pensée politique du monde paysan, il y a une pensée politique d'un monde rural qui ne pense pas aux bénéfices des gestes de son travail, qui ne pense pas aux gains, qui ne pense pas à la façon dont la productivité de ces gestes va pouvoir permettre de capitaliser sur l'existence. Et la fleur, c'est le contraire du capital.
C'est exactement ce vers quoi vous allez quand, dans votre texte, et on terminera tout à l'heure avec cette chanson, vous évoquez la grève des ouvrières textiles de 1912 qui ne réclame pas seulement du pain, mais aussi des roses, bread and roses, pour dire que non, elles ne se contenteront pas seulement de manger la nourriture des pauvres, je cite, ni d'aller au cirque pour se distraire, mais qu'elles veulent aussi la beauté, d'une certaine manière. J'aimerais qu'on écoute la voix de Caroline, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre comme nous, Pourquoi les fleurs, Marion Grébert. Elle vous adresse une question notamment sur l'endroit d'écriture où vous vous tenez et qui souvent dit « je » et juste après on lui répond d'une certaine manière en faisant écouter un texte qui arrive quasiment au milieu du livre que vous appelez « La scène primitive » et qui est un souvenir d'enfance.
Bonjour le Book Club, bonjour Marion Grébert, j'ai lu votre livre « Pourquoi les fleurs, un autre voyage en Italie ». Ce que j'aime, c'est que c'est vrai que vous êtes historienne, c'est un travail qu'on sent de recherche, un travail académique, mais il y a aussi beaucoup d'intimité, on sent votre chemin de main, vous parlez souvent à la première personne, et moi ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans les livres de recherche en général. Vous êtes aussi une créatrice, moi j'aime beaucoup vos bijoux. Est-ce que c'est l'artiste qui motive l'historienne ou est-ce que c'est l'historienne qui génère le travail artistique? Voilà, c'est une question qui m'intéresse et merci pour cette belle lecture.
Une scène primitive. Dans la cour de l'école, en un endroit, le grillage est bordé de tuyas derrière lesquelles on réussit à passer. Une frange de terre permet de se faire une place entre la grille et les arbres. Ici, l'herbe pousse. Le reste est goudronné ou bétonné. Et l'on est à l'abri des regards car la surveillance est aveugle à cette zone. Quand les beaux jours reviennent, sur ce parterre, des fleurs rouge-orange éclosent, sauvages et petites comme les ongles d'enfant. Elles rappellent le myosotis. Elles se nomment Mourou. Je suis à genoux, le visage penché au-dessus d'elles, éprouvant en leur compagnie le mal de ventre d'une solitude interdite, un échauffement organique d'inquiétude et d'excitation mêlée. Je les frôle du bout des doigts, sans les cueillir. Elles ont le sens du secret. Je le sais au lieu d'éclosion qu'elles se choisissent, celui où personne ne va. En cela, j'ai la conviction qu'elles me ressemblent, et je les tiens pour des amies plus grandes que celles avec qui je joue d'habitude à voix haute. À la fin de notre discussion, j'en emporte une avec moi. Je la serre dans ma paume et en classe, je la couche dans ma trousse. Sa fleur a transpiré dans ma main, le dentelé de ses feuilles a molli. Dès que je la regarde, j'entends moins ce qui se passe dans mon voisinage et au tableau. Si les phrases pouvaient devenir floues comme des images, alors c'est flou que j'entendrais les phrases de la maîtresse et des camarades. Je n'entends plus que la voix de ma fleur. Je lui parle intérieurement. Elle me répond. Nous n'utilisons pas de mots courants, mais des chuchotements, des sifflements, des souffles et des chants sans paroles qui, par leur emprunt même aux matières du silence, nous donnent à l'une et l'autre accès à la formulation des vérités les plus crues. Mon premier langage des fleurs.
Un extrait de votre livre, Marion Grébert, que vous appelez « Une scène primitive » pour répondre ou commencer de le faire à la question de Caroline qui a aimé vous lire, notamment parce qu'elle a aimé la position du « dire-je » dans laquelle vous vous trouvez souvent. En effet, au milieu du livre, d'un seul coup, ce souvenir d'enfance et pas au début. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, quelque chose qui serait comme une réminiscence au milieu du savoir, au milieu d'un essai de philosophie politique, au milieu d'un essai d'histoire. De l'air, de l'art, hop, ce souvenir d'enfance.
Ça, c'est une question d'écriture que j'avais déjà d'ailleurs dans le livre précédent, dans Traverser l'invisible. Comment dire je ? L'essai est une forme qui se prête à cela parce que c'est une affirmation que l'on peut penser à partir de son propre sensible, de sa propre sensibilité, de sa propre expérience des choses. Et en cela, je me sens très proche de la phénoménologie, c'est-à-dire de toujours rester en lien et en rapport avec ses intuitions sensibles. Il faut réussir à trouver un jeu qui soit, qui en même temps puisse prétendre à une forme d'impersonnalité, peut-être. Et d'où la subjectivité n'est pas de l'ordre de la confession, que ce jeu participe à l'élaboration de la réflexion. Et c'est une manière de dire on ne vient pas au savoir sans son histoire, sans la manière dont on pense, avec quelle phrase on pense, et depuis quel souvenir aussi.
Et depuis quelle enfance, parce qu'il y a quelque chose de très subtil qui se dit comme au passage, en fait, un peu comme vous apercevez les fleurs sur le bord de la route au début dans la scène inaugurale de votre essai. C'est-à-dire, c'est comme au passage, ça vient pas alourdir le reste de notre lecture, mais simplement on a entendu, on a aperçu une petite fille qui aime les fleurs parce qu'elle pousse à un certain endroit. Ça renseigne aussi l'attention portée à un motif pictural dans la peinture qui est un motif en sourdine, un motif peu considéré. Il y a quelque chose qui vient juste renseigner un tout petit peu le reste de notre lecture après Marion Graeber.
Oui, et qui, je crois aussi, introduit plus clairement la question du dialogue, c'est-à-dire que c'est une scène dans laquelle je dialogue intérieurement avec une fleur.
Premier langage des fleurs.
Oui, ouais. Et la dimension dialogique est très présente dans le livre, et la question c'est toujours de savoir à qui l'on s'adresse, à qui s'adresse la pensée, en dernière ou en première instance, à qui s'adressent les fleurs. Et au fond, je m'aperçois que cette scène primitive fait écho au projet, je le dis en toute modestie, mais fait écho au projet du cours de Barthes, Comment vivre ensemble, qui est très bien synthétisé par Claude Coste, qui dans l'édition introduit le séminaire, et elle écrit la chose suivante. Tout le cours est dans cette question. À quelle distance dois-je me tenir des autres pour construire avec eux une sociabilité sans aliénation et une solitude sans exil ? Et c'est une question qui...
C'est une question dans laquelle se tient la petite fleur que regarde l'enfant.
Exactement.
Dans cette scène primitive.
Oui, ouais. C'est ça. Mmh. C'est une question dans laquelle vient se loger mon écriture. Je crois que c'est une question qui se pose à tous, mais qui pose aussi cette question de savoir comment introduire le jeu dans un écrit comme celui-ci. D'être présente à l'autre et être présente à soi.
Je dirais qu'on termine trop rapidement probablement, mais par un chapitre, il est géographique ce chapitre, et il va notamment à Varsovie, à Auschwitz et à Breslau. On entend d'abord l'archive de Georges Didubermann et puis un extrait de L'espèce humaine de Robert Antelme.
La beauté a un hors-champ, et ce hors-champ, c'est le terrible, c'est l'horrible, c'est le... voilà.
Dans L'espèce humaine, Robert Antelme raconte l'évacuation de Dachau alors que la guerre est finie. Le 4 avril 1945 est une très belle matinée de printemps. On grimpe vers le sommet de la prairie. La rampe est raide. On domine la maison de bois, son toit rouge. La colonne mauve serpente, mince, sur l'herbe. Le soleil est très faible, la brume rampe au ras des prés. C'est beau. C'est beau et on va peut-être nous tuer tout à l'heure. C'est beau et on va avoir faim. J'ai vu l'herbe, la brume, les bois bruns. Nous aussi, nous pouvons voir cela. Tout à l'heure, j'essaierai de ne regarder que les arbres, d'en saisir la diversité, de m'apercevoir que l'on passe de la forêt pleine à la clairière. J'essaierai même d'atteindre, avec curiosité, le prochain tournant. Est-ce qu'on peut être dans la colonne et ne voir que les fleurs sur le talus, ne sentir que l'odeur des feuilles mouillées que l'on écrase ? J'ai eu ce pouvoir un instant.
Marion Graeber, on va évidemment manquer de temps pour ce chapitre que vous consacrez à l'apparition de certaines fleurs dans des contextes les plus terribles, les plus extrêmement terribles. On entendait la voix de Georges Didubermann dire « il y a un hors-champ à la beauté, c'est l'horrible, c'est le terrible. Ici, les fleurs aperçues sur le talus par Robert Antelme. Vous citez aussi Charlotte Desbault qui voit une tulipe. Vous citez un poème de Paul Celan. Pourquoi est-ce que c'était important d'aller aussi dans cette géographie pour vous ?
C'était important parce que c'était dès le départ incontournable. Je savais que je voulais parler de La Rose de Personne, de Paul Celan notamment, Celan. Son recueil de 1963, que s'est posé la question de savoir comment parler de la fleur dans le paysage concentrationnaire, comment parler de sa duplicité inintentionnelle dans ce paysage-là. Et j'ai écrit ce chapitre qui est en fait un montage de citations, comme vous le dites, de Antelme, de Charlotte Desbault, d'Imre Kertész, de Paul Celan, de Georges Didier Huberman, pour se confronter à la façon dont les fleurs se métamorphosent au contact de l'horreur. Et en même temps, ce que nous dit cet extrait, et ce que nous disent certains autres extraits que je cite dans le chapitre, c'est que tout d'un coup, grâce à la réorientation du regard que permettent ces fleurs, quelque chose de l'humanité en soi est retrouvé, parce qu'on cesse, pour un instant, en voyant ces fleurs, d'être assigné à être ce que l'on est assigné à être dans ces conditions d'horreur. Et tout d'un coup, parce qu'on peut regarder autre chose et parce que on a la possibilité d'être présent à sa propre vision, on retrouve le sentiment de son humanité. Et que si les fleurs n'ont pas la force de nous sauver physiquement, elles ont la force de sauver quelque chose de notre intégrité humaine.
Oui, on entendait là dans le texte d'Antelme, j'ai eu un instant ce pouvoir-là, et vous parlez bien de la duplicité non intentionnelle de la fleur. Dans son texte, Charlotte Desbault remarque la tulipe, puis remarque que c'est une tulipe qui pousse dans le jardin de la maison d'un SS, et elle jouit de la possibilité de son regard posé sur la tulipe, puis regrette d'avoir eu un instant ce pouvoir-là, pour citer Robert Antelme. Donc c'est vraiment une question de regard, tout ça.
Oui, et elle regrette en effet son émerveillement. Et c'est toute la
question. Mais il a eu lieu.
Mais il a eu lieu. Et ça aussi, c'est très important dans la littérature d'Imre Kertész. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet émerveillement et de la façon dont il passe et dont il est affecté et détruit par cette expérience de l'horreur ?
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, chaque semaine, on profite de ce grand réseau des correspondants de la rédaction internationale de Radio France pour se rendre sur l'île de Madagascar, dans l'océan Indien, avec vous, Sarah Tetto. Bonjour Sarah.
Bonjour Marie.
Dans la capitale, qui est l'une des plus pauvres de la planète, une bibliothèque de rue itinérante permet aux enfants des quartiers défavorisés d'avoir accès aux livres et à un imaginaire et à un savoir auquel, en temps normal, ils sont totalement coupés.
Exactement, Marie. L'initiative démarre en 2016, quand Marie-Michel Razafine Salam, qui est à la tête d'une petite maison d'édition, ne cesse de déplorer l'absence totale de livres au sein des foyers défavorisés. À Madagascar, le livre est un objet rare, un objet cher. Nombreuses d'ailleurs sont les familles qui n'en ont qu'un. En général, c'est la Bible. Et donc, les écoles publiques, vous vous en doutez, elles ne sont pas mieux loties. Les enfants se partagent généralement un manuel scolaire à 5. Dans ces conditions, je vous laisse imaginer, hein, Marie, qu'il n'y a pas vraiment de budget pour doter les établissements d'albums illustrés ou de romans pour enfants.
Alors, qu'est-ce que Marie-Michel Razafine Salam a donc lancé ?
Les enfants n'ont pas accès aux livres, à la lecture. Eh ben, qu'à cela ne tienne, c'est elle qui fera venir les livres aux enfants. Alors, chaque samedi, eh bien, quelle que soit la météo, la quinquagénaire et son armée de bénévoles investissent quelques mètres carrés d'un quartier très populaire. Un coup de mégaphone pour annoncer l'installation de la Book Imitated Vouch, en français la bibliothèque des rues, une bâche étendue sur le sol, une soixantaine de livres mis en libre service et bim, le tour est joué. Comme une nuée de papillons, les enfants et les adolescents en guenilles, le plus souvent, affluent et se ruent sur la bâche, prêts à s'offrir 2 heures de communion avec la lecture.
Et à chaque fois, c'est le même rituel, Sarah.
Oui, tout à fait. Lavage de mains obligatoire, lecture d'un conte à haute voix par les animateurs, puis seulement alors, les enfants peuvent choisir des livres et les feuilleter tel un trésor en toute autonomie. Un moment suspendu au milieu du brouhaha urbain. Un samedi, dans le bas-quartier d'Anous, j'ai rencontré Malal, 14 ans. Elle s'était constituée une pile de livres qu'elle dévorait dans sa bulle. L'adolescente m'a confié qu'elle rêvait de pouvoir lire plus, mais faute de livres dans sa maison, eh bien, ses cahiers d'école étaient ses seules lectures pour pouvoir s'évader.
Et d'où viennent ces livres ?
Alors la grande majorité sont ceux que Marie-Michel Razafine Salam édite. Elle est l'une des rares à proposer de la littérature jeunesse sur l'île. La plupart des maisons d'édition du pays se consacrent en fait principalement à l'édition d'ouvrages religieux. Il y a aussi quelques dons, hein, essentiellement en provenance d'associations françaises.
Madagascar, Sarah, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète, ça on le sait, mais qu'est-ce qu'il en est de l'alphabétisation de la population là-bas ?
Les plus récentes données estiment qu'un quart de la population est analphabète. Un quart de la population malgache n'a jamais fréquenté l'école. Aujourd'hui, 7 enfants sur 10 en âge d'aller à l'école terminent leur primaire. Et vous le savez bien, hein, finir son primaire, c'est pas gage d'être autonome en lecture et en écriture. Et ensuite, la déperdition, elle est énorme. Seuls 2 enfants sur 10 poursuivent au collège. C'est ça, la réalité à Madagascar. Cependant, Marie-Michel, elle est persuadée qu'on peut acquérir des connaissances sans être allé à l'école, à commencer par le savoir-vivre, le respect, voire même la lecture et le goût de la lecture. Ces bénévoles ont aussi réussi à sensibiliser les parents, souvent illettrés eux-mêmes, à laisser leurs filles venir à la bibliothèque de rue et les éloigner le temps de 2 heures par semaine des corvées du foyer. Elles représentent aujourd'hui 50% des jeunes lecteurs et ça, clairement, c'est la plus belle victoire de cette bibliothèque des rues.
Absolument, merci beaucoup Sarah. Lecture sans frontières à réécouter sur franceculture.fr. Merci. Et pour le grand jeu des pages musicales qui clôt chaque jour le Book Club, Marion Grébert, on cherche de la musique dans les livres. On en a trouvé dans votre livre, dans votre si beau livre, Pourquoi les fleurs ? Je l'évoquais tout à l'heure, c'est la grève de 1912, Bread and Roses. La grève du pain et des roses, Bread and Roses, en 1912, à Lawrence, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Les ouvrières du secteur textile reprirent les vers d'un poème de James Oppenheim, publié en 1911. « Les cœurs ont faim comme les corps. Donnez-nous du pain, mais donnez-nous aussi des roses. » Les travailleuses américaines n'aspirent pas seulement à subvenir aux besoins premiers à la distraction. Leur labeur devrait être récompensé par des signes de reconnaissance et des objets de douceur moins élémentaires que la seule nourriture des pauvres. Elle ne recherche pas l'oubli de soi dans le spectacle, mais le temps consacré à la joie d'une beauté spontanée. Bread and roses, cela signifie la volonté d'association du travail et de la délicatesse. Du pain et des roses, formule de l'effort sensible. Pan y Rosas par un collectif argentin. Un immense merci Marion Grébert d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre « Pourquoi les fleurs ? Un autre voyage en Italie » paru aux éditions de l'Atelier Contemporain dans la collection « Et c'est sur l'art ». C'était un ravissement de vous lire et de vous écouter.
Merci beaucoup Marie.
Au son, Mineta Diawara, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. Par exemple, trouver des merveilleuses archives. Spéciale dédicace à Louise Hoth aujourd'hui. Parlez-nous de vos fleurs dans vos livres sur le compte Instagram animé par Alexandra Laibegovitch.